entend jusqu'en haut? Merci. Oui, je crois que vous avez très bien fait de dire que une des premières choses à rappeler, c'était que le travail que je mène et que je mène depuis des décennies est un travail collectif. Avec Nathalie Viedepaule et cette affaire intitulée ainsi par l'éditeur, est un travail qui a été fait avec plusieurs personnes. On était cinq. Et je crois que c'est très important de dire que c'est un travail qui peut se mener parce qu'on est plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se vérifier, se contrôler, plusieurs personnes qui peuvent objecter. Et nous avons eu, lors de nos passionnées, passionnantes discussions, vraiment des objections les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas croire que la recherche se fait par une espèce de convergence où on arrive spontanément sur une vue commune, sur un consensus. Il n'y a pas de consensus, et s'il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'il ne doit pas y avoir de consensus dans la recherche. On peut avoir accès aux mêmes documents, on peut avoir accès à des éléments, des témoignages qui sont très proches les uns des autres. Ce qui compte, c'est le point de vue du chercheur ou de l'équipe des chercheurs. C'est là-dessus que je voudrais commencer. Ça me paraît absolument essentiel. Il se trouve, vous le savez tous, à mon avis, que en parallèle, il y a eu un autre travail qui a été mené sur Jean Vanier, avec justement un autre point de vue, d'autres chercheurs, et quelqu'un qui aurait beaucoup de temps à prendre, j'ai pas dit à perdre, hein, beaucoup de temps à prendre pourrait comparer les deux rapports et il y aurait vraiment quelque chose de très intéressant, je crois, à comparer les points de vue des chercheurs. Ça m'amène tout de suite, j'y reviendrai plus tard, mais à dire que ce qui compte, c'est pas le fait qu'on ait accès à des archives. Ce qui compte, c'est pas le fait qu'on vous ouvre des portes. Ce qui compte, c'est le fait que vous allez vous en emparer d'une certaine manière. C'est ça l'essentiel. C'est aussi ce qui fait que, quand je suis là, je crois que je le suis de manière extrêmement modeste, c'est-à-dire que je vous présente, à travers cet ouvrage, un point de vue, et que ce point de vue, n'importe qui peut le discuter, peut amener des contradictions par rapport à cette manière de voir les choses, parce qu'il y a véritablement un point de vue dans cet ouvrage. Alors, c'est ce que je voudrais présenter, en fait, surtout devant vous ce soir, plutôt que de vous raconter les frères Philippe et leurs frasques. On en a assez parlé. J'imagine que les gens qui sont là ont tous une connaissance de ce que sont les frères Philippe, de ce qu'ils ont fait. Et donc, je pense qu'on peut passer là-dessus. Peut-être qu'au fur et à mesure de ma présentation, il y aura des éléments factuels qui reviendront. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur la manière de travailler. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il s'agit d'une commande. Il s'agit d'une commande du provincial des Dominicains de la province de France qui me demande, janvier 2020, quelle est la responsabilité des supérieurs dominicains par rapport aux agissements des frères Marie-Dominique et Thomas-Philippe dans les décennies qui précèdent, agissements dont, à ce moment-là, il est clair pour tout le monde qu'il relève de quelque chose de répréhensible. C'est un problème pour un historien d'accepter une commande comme celle-là. C'est un vrai problème. J'accepte, je deviens quelque chose comme un expert. Je ne veux pas devenir un expert. Je suis historien. Et je tiens, et je pense que ce que je peux apporter tient à ce que je suis historien, je reste historien, et tout le travail que je fais, c'est un travail comme historien. La lettre de mission, en même temps, porte sur des victimes. Il y a des victimes, il y a toute une actualité, pardon, médiatique qui fait que on ne peut pas ignorer ces victimes. Est-ce qu'on peut se soustraire à ça? Voilà. Pour un historien qui a l'habitude, comme c'était mon cas, et pourtant je trouvais que par rapport à des collègues médiévistes qui travaillaient sur des siècles où il n'y avait plus tellement d'enjeux, où on se brûlait plus trop, quoi. Bon, un peu, peut-être encore, mais je travaillais sur les prêtres ouvriers avec Nathalie. On a beaucoup travaillé là-dessus. Il y avait déjà des tensions, mais c'était quand même quelque chose qui relevait d'un certain passé. Il y avait une distance. Là, on se retrouve tout de suite dans quelque chose qui est avec de la souffrance. Voilà, il faut dire. Il y a de la souffrance, il y a des gens qui se présentent comme victimes immédiatement. Et donc, comment est-ce que l'historien peut arriver là-dedans? Voilà. Moi, je suis parti là-dessus. Ce qui m'a amené à poser des questions et poser des conditions au provincial qui est venu me voir. Qui est venu me voir parce que, alors effectivement, il faut un peu de biographie quand même. Ça faisait 10 ans qu'avec Nathalie, on travaillait sur ce dictionnaire des Dominicains, ce qui nous avait amené à la fois à connaître les personnes et à connaître les archives. Ça, c'était le premier élément. La connaissance des archives, la connaissance du classement des archives. Ça a l'air très abstrait, ce que je dis. Et savoir où chercher, c'est absolument essentiel. Donc, il y a ce premier élément, et puis la connaissance des hommes. Et cette connaissance à la fois des archives et des hommes a amené donc le provincial à me solliciter pour mener cette enquête. Mais encore une fois, cette enquête, elle était cadrée par une lettre de mission qui portait sur quelle est la responsabilité des supérieurs dominicains depuis l'origine des frères Philippe. Et c'est là où j'ai changé un petit peu la demande, puisqu'au début, en fait, la demande portait sur Thomas Philippe. Et parce qu'il y avait cette idée que les frères de Saint-Jean s'occupaient de Marie-Dominique Philippe, les dominicains s'occupaient de Thomas Philippe et de Jean Vanier. Et les dominicains, bon, devaient s'occuper de Thomas Philippe. Et moi, j'ai dit tout de suite, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner comme ça. On peut pas séparer Thomas et Marie-Dominique Philippe. On a un fonctionnement qui est similaire. Bon. On est parti comme ça. Ça, c'est le moment où je reçois une commande. Et j'insiste beaucoup là-dessus, je sais que ça a l'air anecdotique, mais quand on reçoit une commande, on doit toujours se demander quelle est la commande que l'on reçoit et comment on la reçoit en fonction de ce que l'on est. Moi, comme historien, je ne la reçois pas comme un journaliste, un sociologue, qui que ce soit, je la reçois comme historien. Et donc, je pose comme condition le fait que, une des conditions, l'accès à toutes les archives, évidemment, mais aussi le fait que le rapport sera publié. Et parce que ce qui est important, c'est que les choses soient. C'est pas médiatisé. J'aime pas trop ce mot, parce que la médiatisation, c'est quelque chose qui est. Ça échappe, et puis ça donne lieu à des tas de commentaires bon, qui ne sont pas très intéressants. Par contre, la publicisation me semble être quelque chose de très important. Donc je demande, je mets comme condition la publicisation du rapport et une publicisation qui ne passera pas par une relecture du provincial. C'est ce qui a eu lieu. Je ne m'étends pas parce que je l'ai dit beaucoup déjà. Je Je pense que c'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Quand on reçoit une commande comme ça, comme historien, vraiment j'insiste, moi je suis historien, je suis pas sociologue, je suis pas journaliste, je suis pas dans la révélation. Et ceux qui ont pu regarder le livre, d'emblée, je dis qu'il ne s'agit pas de faire des révélations. Les révélations, elles ont été faites depuis 2013, depuis les premières interventions du frère Thomas Joachim, supérieur des frères de Saint-Jean, suivi par les révélations venant de l'Arche. Petit à petit, sont sorties un certain nombre de choses. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour de nouvelles révélations. S'il y a des révélations qui apparaissent en cours de route, eh bien, pourquoi pas. Mais la question qui se pose pour moi, pour nous, pour notre équipe, c'est la question de l'analyse. Comment est-ce qu'en tant qu'historien, on peut analyser cette affaire où il faut bien dire que quand on commence, on a l'impression qu'on n'y comprend rien. Ça échappe à tout, ça échappe à toute catégorie. Je veux dire, on a l'impression de reconnaître des choses dont on entend parler parce qu'on est dans le contexte des abus sexuels. Comme historien, on se dit, on ne comprend pas d'où ça vient, on ne comprend pas comment ça naît, on ne comprend pas comment ça s'est construit. Et c'est justement le travail que l'on a à faire. Donc, mon intention, c'est pas du tout de vous dire que tout ça a été très facile à reconstituer, mais qu'au contraire, c'était a priori impossible à reconstituer. C'est bien pour ça que ça a duré pendant des décennies. J'ai une formulation, je me permets de le citer, c'est toujours difficile, hein, bon. À la fin du livre, je maintiens cette formulation, de quoi s'agit-il, cette affaire qui dure quand même 150 ans. Hein, on a une affaire qui est une affaire de subversion et dont la durée, c'est la formule que j'utilise, dont la durée dit la force. Une subversion dont la durée dit la force. C'est le point de départ. C'est notre point de départ. Qu'est-ce qui fait que ça dure? Qu'est-ce qui fait que on puisse avoir, par exemple, Thomas de Haut, quoi qu'on ait à lui reprocher, c'est pas moi qui ai quelque chose à lui reprocher. À un moment donné, le Saint-Office considère qu'il a quelque chose à reprocher à Thomas de Haut. C'est pas moi. Et c'est un des points sur lesquels je voudrais insister. Comme historien, nous nous situons toujours dans une distance par rapport à la construction de la monstruosité des frères Philippe. Et ça me paraît absolument essentiel. Les frères Philippe ne sont pas des monstres. Je crois que c'est très important de le dire. Thomas de Haut n'est pas un monstre. Les frères Philippe ne sont pas des monstres. Nous avons tous à nous interroger sur ce qui a fait les frères Philippe. Alors, il s'agit de revenir en arrière, évidemment, comme historien, et en revenant en arrière, de se demander jusqu'où on remonte. Comment est-ce que ces faits nous apparaissent? En fait, ça a été dit tout à l'heure, ces faits nous sont connus depuis peu de temps. 2013, les premiers propos très, très euphémisés du prieur général de Saint-Jean. 2014, les premiers propos à l'Arche. 2019, le documentaire d'Arte. On est dans une chronologie qui est très courte. Et cette chronologie très courte, d'un seul coup, elle fait basculer la manière dont on perçoit les choses. Il y a une vingtaine d'années que l'on s'interroge sur les questions de pédophilie, criminalité, on peut discuter des termes, mais la question des abus sur les femmes est une question qui n'est pas posée. Et c'est très très important de le mentionner quand on parle, et aujourd'hui encore, ça m'arrive constamment quand je dis je travaille sur les frères Philippe, ah oui, les pédocriminels. Non, jusqu'à preuve du contraire. Non. Donc on a un temps qui est très court, qui fait que les choses sont révélées sous la forme d'un scandale. Le scandale, ça a été répété tout à l'heure, 2020. Début 2020, à l'occasion de la révélation sur Jean Vanier, et derrière Jean Vanier, sur Thomas Philippe, et derrière Thomas Philippe, sur les Dominicains. Qu'ont fait, que n'ont pas fait les Dominicains pendant des décennies. C'est à ce moment-là que le provincial des Dominicains vient me demander de faire une enquête sur les responsabilités de ses prédécesseurs. Moi, je reçois une enquête de quelqu'un qui appartient de manière éminente au champ religieux, et moi, je suis historien. Le problème qui se pose à moi, c'est comment je prends ça, comment je fais pour maintenir mon travail comme un travail d'historien avec mon équipe, l'équipe qui se constitue petit à petit au fil des semaines. Il s'agit de maintenir un travail d'historien, historien, socio-historien. C'est pas un travail de théologien. Je dis d'autant mieux que, comme il y a des théologiens, philosophes qui vont intervenir après moi, je maintiens ma position. Cet ouvrage est un ouvrage dont l'objectif est un objectif d'histoire, de socio-histoire. Il n'y a pas de théologie dans cet ouvrage, ou plus exactement, il n'y a pas de théologie au sens où on a l'habitude de l'approcher. Nous avons cherché à travailler sur cette affaire de manière comme historien, y compris quand on approchait les objets théologiques, on les prenait comme historien. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas nous taquiner sur le fait qu'on n'a pas tout à fait compris Thomas d'Aquin, etc. Ce n'était pas notre objectif. C'était absolument pas notre objectif. Alors, pourquoi? Je vais dire tout de suite, je vais donner tout de suite le fil rouge de cette enquête. L'idée, il y a une introduction. Une introduction que j'avais trouvé dans les archives et qui m'avait paru particulièrement intéressante, ce débat qu'il y a entre deux dominicains de la province de France éminents, Henri-Marie Ferret et Antonin Motte, qui sont vraiment deux pointures de la province de France, deux grandes figures, et qui se retrouvent 10 ans après l'affaire dite de l'eau vive, qui a été l'affaire qui a amené la condamnation de Thomas Philippe, et qui se retrouve avec une nouvelle affaire dite mystico-érotique, et qui sont l'un et l'autre à se disputer et à se demander, mais finalement, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que l'on peut savoir comme étant vrai? C'est la question qui se posait à ce moment-là. Le débat se termine entre eux, balle au centre, on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre. Nous, on est parti de là. On est parti de là. Qu'est-ce que nous, on peut apporter quand des gens extrêmement éminents, beaucoup plus intelligents que nous, hein, c'est très difficile de travailler quand on est historien et qu'on travaille sur des gens qui sont beaucoup plus intelligents que vous. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui fait que des gens beaucoup plus intelligents que vous n'ont pas su voir ce qui était sous leurs yeux? C'est la question qui se pose. Et le fil rouge qui est dans toute cette affaire, c'est plus la peine d'acheter le livre, c'est l'idée que il y a quelque chose qui ne va pas du point de vue de la recherche de la pratique. On sait parfaitement penser des conceptions qui relèvent, excusez-moi, j'utilise des grands mots, et vous pourriez me reprendre sur tout, sur de la scolastique. On est sur de la scolastique. Et les frères Philippe sont des as de la scolastique. Et ils savent parfaitement mettre en avant, depuis les années 30 pour les frères Philippe, depuis bien avant pour Thomas de Haut, les éléments qui, dans leur culture scolastique, permettent de faire d'eux des personnages inquestionnables. Inquestionnables. Et c'est cette raison qui m'a amené, dans la construction de l'ouvrage, à commencer, après l'introduction, par un long chapitre sur les femmes. Je voulais casser ce présupposé de, institutionnel d'une part, intellectuel d'autre part. Il faut partir des pratiques. Qu'est-ce que ces femmes qui ont connu les frères Philippe, qui les ont connus de près, qui pour certaines se présentent comme victimes, mais pas toutes, comment est-ce qu'elles ont vécu ce rapport avec Thomas ou Marie-Dominique Philippe? On est dans la pratique, on est dans l'histoire de trajectoire individuelle. Je voudrais rappeler, ça me paraît très important, que le fait d'être victime, ce n'est pas quelque chose qui vous arrive subitement, comme ça, c'est un processus. C'est un processus de victimisation. Le fait qu'on ait aujourd'hui des gens qui puissent parler, des femmes qui puissent parler de choses qui ont eu lieu il y a des décennies, et c'est notamment apporté au crédit de la CIAZ, la libération de la parole qui a eu lieu grâce au travail de la CIAZ, eh bien, cela tient justement au fait que la victimisation, c'est quelque chose qui s'entend sur des décennies. Sur le moment, on subit quelque chose. On subit quelque chose et puis on passe à autre chose. S'il n'y a rien autour de vous qui vous permette de dire que vous avez subi quelque chose de violent, s'il n'y a rien qui vous permette de mettre des mots, sur ce que vous avez vécu, eh bien, vous passez à autre chose, ou vous faites semblant de passer à autre chose. Le travail de douleur, de souffrance, il se fait à l'intérieur. On se retrouve aujourd'hui, en 2023, avec de partout des gens qui se mettent à prendre la parole. Ce n'est pas parce que d'un seul coup, il y a un effet de mode, évidemment. C'est parce que la parole peut se libérer, parce que les mots peuvent être utilisé parce que des éléments de compréhension peuvent être mis en avant. Je crois que c'est vraiment très important à mettre en avant. Alors, un deuxième point sur lequel je voudrais insister dans notre travail. Il y a une chose sur laquelle nous sommes tout de suite mis d'accord, tout de suite ou presque mis d'accord, à savoir qu'il n'y avait pas des bons et des méchants. On a refusé de psychologiser. On n'a pas refusé le travail des psychologues. J'insiste là-dessus aussi, parce que c'est un reproche qui a été un peu fait. On n'a pas refusé le travail des psychologues, on a refusé de psychologiser Thomas Philippe, Marie-Dominique Philippe, Jean Vanier, parce qu'on aboutissait très très vite à coller à des personnes en disant, ben voilà, les archives nous permettent de dire tel jour il a fait ça, le lendemain il a fait ça, le surlendemain il a fait ça, on peut documenter les choses, c'est ce qui est dit au début de l'ouvrage. On n'est pas dans une procédure judiciaire, on n'est pas dans une procédure policière, on est dans une procédure qui consiste à comprendre ce qui se passe. Et de ce point de vue-là, psychologiser au sens où cela voudrait dire restreindre l'enquête à tout ce qu'il y aurait de mal, de duplice dans telle ou telle personne, serait pour nous, en tout cas, c'est comme ça que nous l'avons étudié, serait une erreur. La question qui se posait pour nous avec les frères Philippe, il y avait déjà un élément qui était quand même essentiel, qui crevait les yeux, je dirais, c'est comment se fait-il que l'on retrouve deux frères, leur oncle, dans la même affaire ? Il y a quelque chose de familial. Il y a quelque chose de familial. Alors, il y a quelque chose de familial, en même temps, j'ai entendu, nous avons entendu un certain nombre de psychologues qui disaient, bon ben voilà, on voit bien, il y a une famille, ça va pas. Je le dis de manière très très polie. Je l'ai entendu de manière beaucoup moins polie. Pourtant, dans cette famille de haut Philippe, dont le rapport fait remonter la genèse d'une prise de position, je dirais, la genèse d'une prise de position, autour de 1870, on a quelque chose qui amène certains individus à avoir des comportements que l'on va les uns et les autres considérer comme délictueux, aujourd'hui, et d'autres, pas du tout. Alors, on va mettre en avant, ça a été dit tout à l'heure, on va mettre en avant Thomas Philippe, Marie-Dominique Philippe, l'oncle Thomas de Haut, la sœur Cécile de Jésus, et puis on va considérer que du coup, ça fait famille, et qu'on a une famille qui ne va pas. Là aussi, il fallait à la fois prendre en considération cette dimension familiale, et en même temps faire la part des choses. Et c'est là où la question de la responsabilité des supérieurs dominicains ou des dominicains, pour moi, pour nous, intervenait de manière très forte, c'est-à-dire que qu'il y ait quelque chose qui ne va pas dans cette famille n'explique pas tout. Expliquer, ici, ça veut dire on va pouvoir avoir quelque chose qui se répète. On va avoir un modèle qui se répète. Ça n'est pas le cas. Les frères Philippe rentrent chez les Dominicains. Ils sont plusieurs à rentrer chez les Dominicains. Donc Thomas, Marie-Dominique, Évrard, Pierre, j'en oublie un. Ils sont cinq. Il y en a deux qui posent problème, plus la sœur. Le phénomène familial, il doit être mis exactement à sa place. Il existe, mais il doit être mis exactement à sa place. C'est très grave de mettre en cause une famille sur des générations, que ce soit en amont ou en aval. Donc c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire non plus, pas seulement pour des raisons de justice, mais aussi pour des raisons de compréhension. On ne comprend pas ce qui se passe si on impute tout à la famille, si on se met à dire, voilà, on a une famille incestueuse, par exemple. Donc, pas de psychologisation, on ne ramène pas les choses à des individus, mais on ne ramène pas non plus les choses à une famille qui serait comme la matrice d'une grande partie des abus sexuels que l'on pourrait retrouver dans l'Église de France et au-delà même de la France des années 30, puisque c'est une affaire qui commence dans les années 30 et qui va jusqu'à aujourd'hui et qui n'est pas finie. Donc il fallait absolument éviter ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on crée, qu'on croit créer de la connaissance, on crée de la méconnaissance. Quand on croit avoir une clé, qui est par exemple la clé familiale, on se dit « ça marche, ça fonctionne », et bien en même temps on crée de la méconnaissance. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Je n'oublie pas les Dominicains, puisque c'était la question. Il y a un moment où effectivement se pose la question de savoir quand ses frères Philippe rentrent dans l'ordre des Dominicains. Que se passe-t-il ? On pourrait imaginer que l'on a là un ordre religieux qui recadre, qui contrôle, qui oriente des pulsions qui sont là avant, mais qui les oriente, qui les vectorise, j'ai envie de dire, dans une direction qui serait positive. Ça pose la question de quel type de dominicains sont les frères Thomas et Marie-Dominique Philippe. L'idée, là aussi, première qui nous est venue, hein, il faut le dire, au cours de l'enquête, ça a été les frères Philippe se sont servis de l'ordre des dominicains, un ordre central dans l'Église, un ordre qui compte, un ordre qui est là pour rappeler, surtout dans cette période qui est celle des années 1930-1960, qui est là pour rappeler ce qu'il en est de la doctrine et de la manière dont il faut l'entendre, eh bien, on aurait des frères Philippe qui s'empareraient de l'ordre des dominicains. On n'a pas voulu adopter ce point de vue-là, parce que quand on regarde de près les choses, en réalité, ils sont accueillis par l'ordre des dominicains. Ils sont reconnus par l'ordre des dominicains. Ils sont reconnus comme étant parmi les meilleurs théologiens, les meilleurs prêcheurs, si je puis dire, c'est-à-dire que l'ordre des dominicains, à un moment donné, fait d'eux ce qu'ils vont devenir, c'est-à-dire des figures de référence, des figures d'orthodoxie. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se retrouver dans cette situation où on aurait justement cette famille où ça ne va pas, cette famille qui produit des individus qui ne vont pas, dans le rapport avec la sexualité. Et puis, ensuite, il rentre chez les dominicains et tout devrait aller mieux. Non, les dominicains ont leur part de responsabilité, ont une part de responsabilité parce qu'ils reconnaissent en eux des individus qui sont brillants, qui sont effectivement brillants, qui représentent effectivement quelque chose. Et là aussi, il a fallu pour nous aller contre nos propres préventions. Parce qu'évidemment, nos préventions, c'était de dire qu'ils avaient pris en otage l'ordre, en tout cas la province de France, des dominicains. Il faut se demander à chaque moment quel est le rôle des institutions. En quoi est-ce que les institutions font que la perversité, j'utilise un mot que j'utilise jamais d'habitude, je reviendrai peut-être là-dessus, la perversité des individus est valorisée. Elle est valorisée parce qu'elle a l'air de fournir quelque chose qui est de l'ordre de la puissance dans la diffusion du message évangélique. Donc là aussi, il fallait aller contre cette envie qui était spontanément vraiment la nôtre de dire que les dominicains n'avaient rien à voir avec ça. Alors, pour ceux qui ont regardé le livre, c'est une des raisons pour lesquelles il y a tous ces chapitres également sur le rapport des dominicains, les tensions entre dominicains dans les années 1940-1950, tensions entre une ligne progressiste, une ligne conservatrice pour aller très très vite, Chenu d'un côté, Garrigou, bon, il faudrait des heures, hein, je suis désolé, mais en tout cas des tensions internes à l'ordre des dominicains dont les frères Philippe savent jouer. Et c'est quelque chose que l'on retrouve dans les années 40-50, que l'on va retrouver dans les années 70 au moment de la fondation des Frères de Saint-Jean, que l'on va retrouver constamment, à savoir que les frères Philippe, Marie-Dominique Philippe surtout à partir des années Saint-Jean, va toujours se présenter comme étant la figure par éminente, je dirais, de l'orthodoxie. Alors, ça pose pour moi une question. Je ne sais pas du tout combien de temps il me reste.
Alors, si, au début, vous m'avez dit, je ne vais pas parler pendant une heure
Non, non, mais debout, non. Bon.
De ces 45 minutes, 35 minutes ont écoulé.
Donc, je pense que moi, j'aimerais bien entendre aussi des questions, c'est-à-dire des retours.
Hein. D'ici là, nous avons 40 minutes jusqu'à la pause prévue.
D'accord. Donc, je vais rajouter quelques éléments et moi, je suis beaucoup plus intéressé par les questions que vous pouvez me poser que par ce que je peux dire. Tout est dans le livre. Je dirais que l'habileté des frères Philippe, c'est évidemment de jouer de la question de l'orthodoxie, mais il y a quelque chose qui est passé largement sous les radars, je dirais, c'est la forme de vie. Et je voudrais insister là-dessus. Le milieu du XXe siècle, alors, quand on se met dans une périodisation qui est celle de la refondation de l'ordre des dominicains depuis la Cordère au XIXe siècle. Les questions qui se posent au XIXe siècle sont des questions de vie. Comment est-ce qu'on vit ? Comment est-ce qu'on est dominicain ? Des choses très concrètes, qu'est-ce qu'on mange ? À quelle heure on se lève la nuit pour aller prier ? Hein ? Toutes ces questions qui sont très concrètes et qui font des tensions très très fortes. Au XXe siècle, on voit ces questions s'estomper de manière radicale et être remplacée par des questions doctrinales. Ces questions doctrinales vont permettre aux frères Philippe de se mettre en avant comme étant ceux qui sont justement les plus à même de défendre la doctrine, que ça soit dans les années 1950 contre le progressisme chrétien, que ça soit dans les années 1970 au moment de ce qu'on a appelé la crise catholique. S'il y a quelque chose qui tient, eh bien c'est Marie-Dominique Philippe, c'est les frères de Saint-Jean, c'est une forme de doctrine qui est mise en avant constamment et qui laisse derrière elle, alors qui l'oblitère pas complètement, mais qui laisse derrière elle la question de la forme de vie. Et il me semble que c'est quelque chose qui, au cours du XXe siècle, a été négligé, que rappelle, j'en fais un développement dans le rapport, à partir d'un texte de Marie-Dominique Philippe que je trouve absolument remarquable, au moment de la crise de 1942, c'est-à-dire à un moment donné où Thomas Philippe est envoyé au nom du Saint-Office, pour aller très très vite, pour reprendre le contrôle de ce qu'est le Solchoir, l'école de théologie du Solchoir, qui accorderait trop d'importance à l'histoire, au relativisme. Enfin, excusez-moi, là encore, je vais beaucoup trop vite. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on peut donner l'importance avant tout à la doctrine. Anecdotiquement, désormais, les cours doivent être redonnés en latin. Voilà, c'est une manière anecdotique de dire comment les choses sont reprises. La question de la forme de vie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vit en commun dans un couvent, et en particulier dans un couvent d'études. Le Père Chenu a une lettre magnifique à ce moment-là, qu'il écrit, moi j'aime beaucoup ça, évidemment, comme historien, j'aime beaucoup ça, parce qu'il en fait un double, et le double, il l'envoie aux archives. Donc il sait très bien qu'il écrit pour le futur. Et il dit, mais Thomas Philippe, que l'on présente comme un très grand théologien, depuis qu'il a été nommé en 1936 à l'Angelicum, alors qu'il a publié un article et deux recensions. Il n'a pas d'œuvre, il n'a pas de travail. Pourtant, tout le monde le présente comme un très grand théologien. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, si ce n'est qu'il est soutenu par des personnes qui sont puissantes. Et Marie-Dominique Philippe, pardon, intéressant, Chenu, Chenu, dans son texte, dit, mais dans les années 1930, les cours de Thomas Philippe, entre nous, professeurs du Solchoir, on en riait un peu, on en riait, on était un peu inquiets, mais on en riait aussi en se disant, il est à côté de la plaque. Il est à côté de la plaque. Mais le problème, c'est qu'à la fin de l'année, les étudiants, au moment des examens, eh bien, nous ressortent du Thomas Philippe. C'est pas très grave, parce que, justement, on pense la formation à l'intérieur d'un couvent d'études, comme dans une université, si vous avez un mauvais prof, c'est pas très grave, l'année d'après, vous aurez un meilleur prof, et puis il y aura une somme de profs. Et la somme des profs fera que la formation qui sera donnée, eh bien, empêchera que celui qui aura donné une forme, une intuition très forte et peut-être trop forte, qui aura tiré la doctrine dans un sens très particulier et peut-être trop particulier, sera contrebalancé par l'enseignement des autres. Et Chenu dit, on l'a un peu taquiné en récréation. On lui a dit, écoute, ça va pas tout à fait ce que tu racontes, mais on l'a pas dénoncé au Saint-Office. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, avec Garrigou Lagrange? Il nous a dénoncé au Saint-Office. Qu'est-ce que c'est que la vie en commun? Quand on vit dans un couvent d'études, Chenu a un mot qui me semble très, très important. Quand on vit en commun, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais il y a quelque chose d'essentiel. C'est ce que Chenu appelle la magnanimité. Quand on n'est pas d'accord, on ne demande pas que les choses soient réglées par l'autorité suprême qui condamne. Donc, or, qu'ont fait les frères Philippe constamment, tout au long de leur vie, que ce soit au temps de la reprise du Solchoir en 1942, au temps de l'affaire de l'eau vive dans les années d'après-guerre, au temps de Saint-Jean, il n'y a qu'une manière de penser. Et ceux qui ne pensent pas comme nous ont fait appel aux instances qui permettent la sanction de ceux qui ne pensent pas comme nous. Alors, je préfère m'arrêter là et attendre les questions.
Je reste.
Oui, je pense. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous passons donc à la première discussion de cette soirée, cette encore jeune soirée, une séance de questions, de commentaires de votre part et des, si vous voulez, des réponses, des commentaires de notre intervenant. Évidemment, vous pouvez poser les questions dans la langue que vous préférez et on va traduire si nécessaire. Il y a un micro qui va tourner et je vous prie de vous présenter très brièvement parce que nous sommes vraiment une communauté assez large et diversifiée, donc pour que tout le monde puisse bien vous identifier, vous comprendre. Alors, ich öffne die Diskussion, bitte. Je m'excuse pour ne pas connaître vos noms.
Jean-Paul Fragnière, j'ai été prof de philo, mais j'ai été aussi l'étudiant du père Philippe pendant quatre ans ici à l'université, donc je l'ai eu comme professeur, et j'ai été particulièrement intéressé de façon globale par votre conférence, mais tout particulièrement par ce que vous avez dit à la fin sur les questions de la forme de vie. C'est une question que je me suis souvent posée, à l'époque déjà, et puis ensuite, quand ces affaires sont ressorties et que j'ai revisité tout ça dans ma tête, parce que ça va être très concret ce que je vais dire. Mais le père Philippe, quand il était à Fribourg, il était environ 3 jours, mmh. au maximum 4 jours ici, mais je pense que 3 jours. Et ensuite, il partait en France, ailleurs, etc. Et je me suis toujours demandé, mais quelle est sa vie communautaire? Quelle est sa vie communautaire? Mais même concrètement, quel est son rapport d'obéissance? Vous voyez, parce qu'on avait vraiment le sentiment qu'il fonctionnait comme... comme quelqu'un de totalement isolé. Et cette question-là, évidemment, c'est aussi lié, alors là, je vais peut-être m'attirer des ennuis, mais au charisme des Dominicains, ça, c'est peut-être quelque chose de compliqué, ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, moi, j'avais ce sentiment-là que, vous savez, Aristote dit qu'on ne peut véritablement commander que lorsqu'on en a appris à obéir, et je me suis toujours demandé comment ces gens avaient appris à obéir et quand ils avaient eu l'occasion d'obéir. C'est pour ça que quand vous mettez l'appui l'accent sur ces questions de forme de vie, je pense que là, il y a quelque chose intuitivement qui me paraît absolument central. Peut-être que j'exagère.
Je réponds ? Oui, oui, tout à fait. Oui. Oui. Je suis complètement d'accord avec vous. Je rappelle une des dernières choses que dit Marie-Dominique Philippe quelques semaines avant sa mort à son provincial. Il y a une sorte d'aveu. Après que depuis plusieurs années, son provincial lui demande de ne pas rejoindre pendant les mois d'été la communauté de la sœur Myriam. Et l'idée à ce moment-là, c'est qu'on ne pourra pas empêcher Marie-Dominique Philippe de faire ce qu'il veut, en dépit du fait qu'il n'est plus supérieur général de Saint-Jean depuis 2001. On ne pourra pas l'empêcher de faire ce qu'il veut à Saint-Jean, parce que la reconstitution de sa grandeur, on va dire, est incontrôlable. Par contre, si on pouvait circonscrire son charisme. Si on discute de la question du charisme, ça va prendre du temps. Bon, si on pouvait circonscrire son charisme à Saint-Jean, qu'il n'aille pas courir auprès des foyers de charité, qu'il n'aille pas courir surtout auprès des sœurs mariales, ce serait déjà beaucoup. Donc, son supérieur dominicain, à partir de... C'est même pas le dernier, c'est le précédent a déjà essayé ça. N'y allez pas pendant les mois d'été où elle vous demande d'y aller. N'y allez pas. Il y va. Il trouve toujours une raison pour y aller au nom de l'obéissance. C'est toujours au nom de l'obéissance. On arrive la dernière année, 2005. Les sœurs mariales sont interdites dans le diocèse de Lyon. Dans le diocèse de Lyon, elles ne sont pas interdites, comme on le dit parfois entièrement, elles sont interdites dans le diocèse de Lyon. Le prieur provincial, une fois de plus, lui dit « n'y allez pas ». Et d'autant moins, ou d'autant plus, que le cardinal Barbarin vient de les interdire dans le diocèse de Lyon. Que fait Marie-Dominique Philippe? Sous 2 jours, il écrit au cardinal Barbarin en demandant à celui-ci d'invalider la décision du provincial des Dominicains. Le cardinal Barbarin, par ailleurs averti par le provincial des Dominicains, qui a fini par comprendre quand même comment ça fonctionnait, dit « il va vous écrire ». Répondez-lui « non ». Donc, le cardinal Barbarin lui répond « Non, restez cet été, n'allez pas en Slovaquie. » Que fait Marie-Dominique Philippe? Il va en Slovaquie. Et il a ce courrier en forme d'aveu extraordinaire où il dit « Je suis ingouvernable. » On est un an avant sa mort, donc l'aveu vient un peu tard. Il dit quelque chose qui a eu lieu tout au long de sa vie, c'est-à-dire d'un dominicain qui, comme son frère, ne vit plus en communauté, ne vit, n'a plus de la forme de vie dominicaine que l'habit. Et pour ma part, je pense qu'il y a un rapport extrêmement étroit entre le maintien constant de la part des deux frères Philippe, entre leur habit dominicain, qu'ils ne quittent jamais, et le fait qu'ils ne respectent rien d'autre de la vie dominicaine. Il faut qu'ils apparaissent comme dominicains, et il faut qu'ils apparaissent comme dominicains, d'autant plus qu'ils ne le sont en rien dans la forme de vie, au point que l'on a tant pour Thomas que pour Marie-Dominique, c'est posé dans les archives, on le retrouve dans les archives, l'un et l'autre disent la voix active, la voix passive, les frères, je les connais plus, c'est pas bien grave, je voterai plus de toute façon. Ces éléments qui sont essentiels à la vie dominicaine, ils y renoncent sans difficulté. Par contre, de quitter l'ordre des dominicains, de quitter l'habit dominicain, alors là, ils sont prêts à se battre pour pouvoir continuer à apparaître comme des dominicains. Moi, j'ai été très frappé de rencontrer des gens de Saint-Jean qui racontaient à quel point, je ne sais pas à qui je parle, alors c'est très très gênant, mais à quel point leur habit, d'une certaine façon, leur collait à la peau, mais pas au sens où on prend l'habit, puisque prendre l'habit, c'est entrer en religion, c'est quelque chose de tout à fait... ça existe depuis des siècles, c'est pas quelque chose de nouveau. Prendre l'habit au sens où on est pris par l'habit et où on est en même temps, on devient en quelque sorte l'objet de ce que Marie-Dominique Philippe à Saint-Jean a voulu que vous soyez. Donc la forme de vie, c'est quelque chose qui me paraît absolument essentiel, c'est pour ça que j'insiste là-dessus et que je vous rejoins totalement. Il ne s'agit pas tellement de discuter, de savoir si on est un peu plus thomiste, un peu moins thomiste, un peu plus tendance ceci ou cela, etc. C'est comment est-ce qu'on vit ensemble dans une communauté où l'enjeu, c'est la vie commune, la fraternité. Désolé, il m'a fallu un peu de temps pour prononcer ce terme. C'est un terme pourtant essentiel. Comment on vit la fraternité dans une communauté? Est-ce que c'est d'abord un enjeu de savoir comment on interprète le thomisme? Il est clair pour moi que les frères Philippe, à partir du début des années 1960, n'ont plus que l'apparence des dominicains. Par contre, ils s'en servent beaucoup.
Pardon, excusez-moi. Donc, je me tais, je pourrais dire beaucoup de choses parce que de ma formation, je suis psychiatre et psychanalyste. Mais là, je m'arrêterai simplement sur cette apparence qui avait l'air de sauter aux yeux de tout le monde, je ne sais pas, mais que personne n'a pu arrêter ce cirque, ce cinéma. Et personne n'a mis en cause...
Je sais que c'est pauvre, mais bon, je reviens quand même là-dessus, ce que j'ai dit au début. Il y a au cours du XXe siècle une hyperfocalisation sur les enjeux doctrinaux. Les enjeux doctrinaux qui permettent à ceux qui savent utiliser ces enjeux-là de masquer des tas d'autres choses, notamment tout ce qui relève de la forme de vie. Effectivement, la question qui se pose, c'est pourquoi aujourd'hui ça saute aux yeux, c'était sous nos yeux, c'était sous les yeux de tout le monde, et d'où double aspect révélation, scandale, etc.
C'est un point aveugle.
Voilà, un point aveugle, comme vous le dites. Et en même temps, effectivement, ça pose la question de qu'est-ce qui nous empêche. C'était pour nous, c'était l'enjeu essentiel de l'enquête. C'est qu'est-ce qui fait que tous ces gens si intelligents, eh bien, n'aient pas su voir. Je reviens sur ma remarque, mais il faudrait que je la développe pendant très longtemps, mais simplement, si ça pouvait s'entendre un tout petit peu, il y a quelque chose dans la culture scolastique, en tout cas telle qu'elle se vit à un moment du XXe siècle, je voudrais pas essentialiser les choses non plus, qui empêche de voir les aspects les plus pratiques. Le frère Marie-Dominique Philippe peut circuler où il veut, quand il veut, ne rendre compte à personne. Ça pose pas de problème. On dirait même que ça fait de lui un dominicain extraordinaire. Alors, je fais attention quand je dis ça, parce que je voudrais pas... je ne voudrais pas que ça s'entende comme, recadrons tout, remettons du droit là-dedans, les constitutions, appliquons-les de la manière la plus stricte. La question de la forme de vie, c'est quelque chose de très compliqué. C'est, d'autres en ont parlé bien mieux que moi, mais ce sont des constitutions, ce sont des règles de vie. On rentre dans quelque chose et en même temps, on ne se contente pas de vivre une norme. On fait vivre la norme en fonction de ce que l'on est. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part de liberté, il y a une part de créativité qui ne doit surtout pas être détruite, sinon on détruit la vie religieuse, tout simplement. On se retrouve avec une règle de vie, certes, qui existe toujours, mais qui n'est plus qu'un texte de nature normatif et qui ne sert plus à rien. C'est la fin de la vie religieuse. Donc, le rapport est toujours très complexe. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, dans ce rapport extrêmement complexe, qui est la créativité apostolique, peut-on dire, et le respect d'un certain nombre de règles, eh bien, il y a un art de gouvernement. Moi, je dirais qu'il y a un art de gouvernement qui doit s'exercer et qui est la responsabilité des supérieurs.
Excusez-moi, vous revenez à ce que vous avez dit au début, c'est la transgression. Vous revenez à ce que vous avez dit au début, c'est la transgression. Est-ce qu'elle est source, elle séduit ? Est-ce qu'elle est source de création ? Ou la création a une autre origine que la transgression ? Est-ce que c'est... Enfin...
Oui, la transgression, jusqu'où on va dans la transgression ? On appartient à quelque chose. Quand on rentre dans la vie religieuse, quand on rentre chez les dominicains ou dans toute autre famille religieuse, on appartient à quelque chose. Donc le jeu qui peut exister, hein, parce qu'il doit y avoir du jeu, mais ce jeu-là doit se faire à l'intérieur de règles qui sont comprises par tous ceux qui jouent le jeu. Le problème, c'est à l'extérieur... quand on crédite, par exemple, un ordre religieux de quelque chose d'extraordinaire, c'est un des éléments que j'essayais de mettre par rapport au Saint-Office. Il me semble que cette affaire n'aurait, et j'en suis désolé, je pense que cette affaire n'aurait pas eu une telle ampleur et n'aurait pas de telles répercussions si elle avait eu lieu dans une congrégation qui n'aurait pas la centralité dans l'Église des Dominicains. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui pour moi est très lourd à dire, mais que je maintiens quand même.
Ça se déclenche. On commence par...
Devant l'affaire des pères Philippe, nous ne sommes... Excusez-moi, frère Marc, père abbé d'Autrive, devant l'affaire des pères Philippe, nous ne sommes pas comme devant l'affaire Maciel.
Non.
J'ai l'impression que nous ne sommes pas d'abord devant des trompeurs, mais des trompés. C'est-à-dire que, et jusqu'à maintenant, je pensais que le père Philippe était complètement nul dans l'art du gouvernement, mais en fait, s'il a réussi à faire une communauté cachée pendant autant de temps, il est absolument génial dans l'art du gouvernement par-dessous. C'est-à-dire que vous parlez du, il n'y a pas de communauté, mais en fait, il avait bien une communauté spirituelle en dessous de la communauté visible. Et il croyait à ce qu'il faisait comme plus véritable que tout ce qu'il enseignait ouvertement. Donc, enfin, je reste devant des questions.
Oui. Ce sont des questions, là aussi, auxquelles nous avons été confrontés. La question du cynisme, hein, de Marie-Dominique Philippe ou de Thomas Philippe. Et effectivement, on en est arrivé, comme vous, à savoir que Marie-Dominique Philippe est dans un double jeu, mais dans un double jeu qui se justifie pour lui, pour des raisons supérieures. C'est-à-dire qu'il est dans le mensonge, il est clairement dans le mensonge, il est constamment dans le mensonge, mais il a des bonnes raisons pour mentir, des raisons supérieures. Et c'est ça qui est extrêmement troublant à entendre, à comprendre. On a le sentiment d'abord de quelqu'un où soit on est dans le mensonge, soit on est dans la vérité. C'est pas comme ça que ça s'entend, que ce soit Marie-Dominique ou Thomas Philippe, l'un et l'autre sont convaincus. Et c'est là où l'histoire longue peut amener des éléments de compréhension de cette auto-persuasion du fait que l'on a à sauver l'Église. Et que quand l'enjeu, c'est de sauver l'Église, eh bien, tout est permis, y compris le mensonge, étant donné que les autres ne peuvent pas comprendre. Donc, effectivement, on n'est pas... De toute façon, je ne vois pas comment on peut durer pendant des décennies dans une attitude de duplicité constante si on n'est pas absolument convaincu de ce qu'on raconte. Et j'irai plus loin... l'analyse que l'on essaye de produire de certains textes, lettres, conférences, etc., n'ont comme objectif que de montrer que leur conviction d'être dans J'ai pas envie de prendre le terme de gnose. En tout cas, d'être dans une vérité qu'ils sont seuls à même de comprendre, produit du religieux, produit de quelque chose qui apparaît à beaucoup de gens comme de la sainteté.
Il y a une cinquantaine de personnes à distance avec nous. Il y a quelques questions là. Est-ce que je peux prendre une question très courte, vraiment une question de discipline, de l'historien. Vous avez dit dans l'émission, donc quelqu'un vous a vu ailleurs, ils ont KTO la procure, ne pas avoir eu accès, vous comprenez, accès aux archives romaines et le déplorer. Y a-t-il, selon votre avis, des éléments inédits dans les archives romaines?
Bon, il faudrait les voir. Bon, mais je veux pas. Je pense que je suis pas du genre à passer la question. Donc, j'ai effectivement demandé dès le début de l'enquête, il y a 3 ans, à pouvoir consulter les archives non seulement de la congrégation pour la doctrine de la foi, mais aussi d'autres. Dicastère, et nous avons reçu des rapports d'archives. Nous avons tous reçu des rapports d'archives. Je pense que c'est important de le dire. J'ai été le seul dans le rapport publié à dire que cela n'allait pas de recevoir pour un historien un travail qui était un travail sur le travail et que je devais, moi, à mon tour, travailler sur le travail sur lequel les autres avaient déjà travaillé, c'est-à-dire qu'il y avait eu de multiples opérations de sélection, hein, qu'il y avait quelque chose là qui n'allait pas. J'aurais bien aimé que les autres commissions qui travaillaient disent la même chose parce qu'elles ont eu exactement les mêmes rapports. Donc ça, c'est un premier élément pour répondre. Deuxième élément, il est évident qu'il y a d'autres archives qui existent dans d'autres congrégations et que c'est les demandes qui ont été faites auprès des autres congrégations ont fait l'objet d'accusés de réception polie. On attend 3 ans après. Il est impossible d'écrire cette histoire, je vais le dire autrement et pour aller un peu plus loin, il est impossible d'écrire cette histoire uniquement en se tenant dans la position de qui est responsable, les supérieurs dominicains de la province de France, l'évêque d'Autun ? Non, les responsabilités, elles remontent jusqu'à Rome. C'est le travail que nous n'avons pas pu faire et que nous continuons à ne pas pouvoir faire. C'est le point aveugle, je dirais que c'est la boîte noire. Et excusez-moi, on est en plus, on est filmé, c'est ça. Je parle, c'est très gênant tout ça. Moi, je pense que on parle tellement du cléricalisme, j'aimerais qu'on parle beaucoup plus du curialisme. La clé pour moi, elle est là. Oui, le travail de la curie, le travail des différents dicastères de la curie, ou plus exactement, l'absence de travail des différents dicastères de la curie, qui font que quand un évêque fait un dossier, un supérieur religieux fait un dossier, fait remonter le dossier à Rome, tout s'arrête là, tout s'ensable là. Là, il y a un vrai problème, et moi, comme historien, je suis bloqué, je fais mes demandes, mais mes demandes, on accuse réception, point.
Oh, pardon, il y avait quelqu'un là.
Merci, je m'appelle Martine Widmer de Montmolin. Hein?
Le micro est en haut.
Il est en haut? Ça, c'est mis. Ah oui, on entend la différence. Alors, je m'appelle Martine Widmer de Montmolin. J'ai juste un séminaire en faculté de théologie. Je sortais de la salle à côté. Il s'agissait d'obéissance et d'autorité. Et aussi, on parlait d'abus d'autorité. Donc, ce qui est aussi le cas ici. Mon petit travail concernait les abus d'autorité en droit étatique. Je fais du droit pénal en ce moment. Et ma question, c'est comment est-ce que dans ces communautés très fermées, hein, finalement, ces groupes, quels seraient les meilleurs garde-fous, à votre avis, pour éviter ce genre d'abus, à part la vertu d'humilité, tout ça, hein? Voilà, merci.
Bon, moi, j'y crois pas, la vertu d'humilité. Ou plus exactement, je pense que c'est une propriété personnelle. On ne peut pas exiger des gens qu'ils aient une vertu d'humilité. On ne peut pas compter là-dessus. Bon. Je réponds aussi clairement que je peux. Ce rapport ne comprend pas de prescription. Il n'y a pas de manuel et il n'y a pas de manualisation de ce rapport. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une manière de résumer ce rapport en disant ben voilà les bonnes pratiques qu'il faudrait appliquer. L'appel de ce rapport, s'il y en a un, c'est un appel à la complexité, à la vigilance. C'est ma manière de vous répondre. Comme historien, je considère que je n'ai pas à dire à des responsables religieux ce qu'ils ont à faire. C'est leur boulot. Par contre, que des responsables religieux ne prennent pas en considération ce qui peut venir de l'extérieur, des regards d'altérité, surtout quand c'est eux qui l'ont commandé, Là, je dirais qu'il y a un vrai problème, mais c'est leur problème. Pour aller au bout de ma pensée, je pense qu'il y a suffisamment de ressources dans la vie religieuse, y compris à coup d'amendements, pour trouver des solutions. Par contre, il faut savoir entendre ce qui se dit à l'extérieur. Il faut abandonner la position de la forteresse assiégée. Voilà.
Une question là et après une question.
Merci. Sur la question, on n'a pas vu, on n'a pas voulu voir. Je suis Patrice Favre. Pendant 25 ans, j'ai été journaliste ici à Fribourg et je m'occupais des questions religieuses. Et je me souviens d'une scène que je n'ai pas pu oublier qui s'est passée ici dans le hall, tout près de l'université. Il y avait une exposition et le père Philippe était là avec mère Myriam. Il pensait être seul. Je devais les rencontrer, je crois que c'était elle, après. Ils ne m'ont pas vu. Et je les ai suivis pendant un certain temps. Et ce que j'ai vu, je n'ai pas pu l'oublier parce que ils étaient collés l'un à l'autre, ils se tripotaient, ils se chuchotaient. Enfin, c'était deux amoureux. Oui, ils ne pouvaient pas être autrement. Et ça m'a tellement frappé que je n'ai pas pu l'oublier. Je le vois encore aujourd'hui. Mais si le lendemain, dans le journal, je racontais cela, ce que j'avais vu, comme je l'ai fait dans mon travail, souvent, pour quand j'ai été visiter les francs-maçons, quand j'ai été dans des sectes, dans mon travail normal, je racontais beaucoup. Si j'avais raconté ça, je perdais mon travail. Je veux dire, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais on ne m'aurait pas publié, je pense même. C'était impossible. Vous voyez ? C'était impossible.
Oui, tout à fait, c'était impossible. C'est bien une manière de dire que c'est une histoire sociale. Ce n'est pas l'histoire de deux, trois individus qui pètent un câble. C'est une histoire sociale, c'est-à-dire c'est une histoire qui concerne tout le monde, toute la société, les médias, les pouvoirs politiques, les pouvoirs éventuellement financiers qui ont soutenu pendant des décennies certaines opérations. Donc, ce que vous dites, moi, ne m'étonne pas parce que je l'ai entendu ailleurs hein, et que je dirais, je l'entends encore aujourd'hui. Les gens se disent que des gens se disent qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ont vu parce qu'on ne va pas les croire. On en est toujours là. C'est-à-dire, je le reprends du point de vue de l'historien. Quand on est historien, on travaille sur des choses passées. C'est la représentation qu'ont les gens. Quand on est historien du contemporain, on travaille sur des gens très très âgés. On se dépêche d'aller les interviewer. Moi, mon sentiment, et je dirais c'est pour ça que je suis là ce soir, plutôt que d'avoir sorti avec l'équipe cet ouvrage et puis rester tranquille dans mon coin, comme après avoir publié un autre ouvrage, c'est qu'on est dans une histoire qui est en cours. Les gens qui viennent me voir depuis 2 mois et demi, 3 mois qu'est sorti cet ouvrage, ce sont des gens qui ont mon âge. Pour un historien, c'est pas normal. Donc, moi, ce que je voudrais faire entendre, c'est que cette histoire, elle est toujours en cours. Et ce que vous dites renvoie à un passé, certes, mais à un passé qui est toujours présent. Le travail n'est pas fini. À mon avis, loin de là. Alors, un des éléments qui fait que ce travail n'est pas fini et que ce bouquin est complètement incomplet, il faut quand même le dire, c'est que ça parle de la France et qu'on est sur quelque chose qui, qui dépasse de très loin les frontières françaises. Qui est-ce qui parle de l'Afrique ? Des frères de Saint-Jean en Afrique, par exemple, pour prendre un exemple qui est documenté. Voilà, on pourrait faire tous les continents. Les gens qui aujourd'hui ont 40 ans, 50 ans, qui, pour certains, commencent à pouvoir parler parce qu'il y a toutes ces instances qui, aujourd'hui, permettent, favorisent, encouragent la parole, mais beaucoup ne parlent pas encore. Moi, beaucoup de ceux qui sont venus me voir m'ont dit « je ne peux pas parler pour le moment, j'ai des enfants, j'ai peur de perdre mon boulot, etc. Bon. » Donc dans 10 ans, dans 20 ans, voilà, donc nous sommes dans cette commission dans une position extrêmement paradoxale pour des historiens. C'est ma manière de vous répondre, mais évidemment vous comprenez bien que c'est bien autre chose que je dis, dans une histoire qui est en cours et qui n'est pas finie et qui n'est pas près de se finir. Et ce serait pas mal qu'on reste pas sur un... Alors, comme je suis à Fribourg, je ne peux pas dire sur un cadre français, mais sur un cadre occidental, hein, ou trop occidental. On est dans une histoire en cours. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, ce qui dit la force de la subversion, Thomas Philippe est mort, Marie-Dominique Philippe est mort, la subversion se poursuit.